10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est l'islam au présent tous les vendredis sur Beurre FM. Une heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, je m'entends pas, c'est bizarre. Ah oui, c'est bon, c'est parce que mon micro.
Le principal, casque... c'est que les gens vous entendent. Imam
voilà, salam alaikum.
Vous entendre.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous et la miséricorde et sa bénédiction.
Bien, nous avons une invitée aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Imam Abdelali. Elle s'appelle Nadia Zouaoui. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Voilà, vous êtes cinéaste et documentariste et vous avez réalisé un film qui s'appelle L'Islam de mon enfance, dont on parlera tout à l'heure, mais qui a déjà eu de nombreux prix. Et votre petit accent qu'on va entendre tout à l'heure, vous venez et vous habitez depuis 30 ans
à Montréal, au Québec.
Voilà.
Ouais. Et vive le Québec! Libre. Ça me rappelle une belle citation là.
On donc, peut aller très loin là. On fait commencer.
Non, mais ça c'est Général de Gaulle qui avait dit ça.
Oui,
bien exactement. Sûr. Que
c'est,
ouais, mais il a pas dit que ça, de Gaulle.
Ouais. Bon, il a dit ça entre autres.
Entre autres. Bien.
Alors... Je vous ai compris, aux Algériens. Mais elle a rien compris. C'est ça le problème.
Ça commence bien. Hein.
Parce que le Hirak, là, il fait du bruit, là.
Nadia, alors je vous explique. C'est que même, je ne contrôle pas. Vous voyez, c'est une émission qui est en dehors de mon contrôle.
Voilà, oui. Ça dépasse.
Ça veut dire quoi, imam?
Rien du tout. Je ne me suis pas cristallisé.
Bon, allez, on va commencer par la citation d'humour du jour, si vous voulez bien, imam Abdelali.
Eh ben, écoute, il y en a beaucoup, mais tu me prends au dépourvu, Philippe. Parce
non,
que...
c'est pas dit pour vous. Je voulais qu'on parle des arbres.
Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, le sujet d'actualité, c'est bien sûr les arbres. Donc il y a donc pour cela tout un ensemble de proverbes. Si on me laisse le temps de parce que j'ai été perturbé.
Bon. Ouais. Non, je sais. Donc, et comme aujourd'hui, vous avez tout sur votre portable, il faut le retrouver. Si vous voulez, moi, je l'ai, la citation du jour.
Oui, hein. Non, je l'ai, c'est bon, t'inquiète pas. Ça va venir tout de suite. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est arrivé, c'est là, hop, voilà. Alors, j'en ai plusieurs, puisqu'on parle de l'arbre aujourd'hui. Il y a une première citation qui compare l'arbre à la patience. Et il dit, dans ce proverbe, « La patience est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux. » Donc voilà comment est utilisé l'arbre dans la littérature africaine, puisqu'il s'agit d'un proverbe africain, comme celui-ci aussi. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. Ça aussi, c'est
celui-là
africain.
Celui-là est très connu et très beau.
Très connu et très, ouais, ouais. Très connu. Non. C'est tout cela pour dire qu'effectivement, ce sont souvent ceux qui travaillent, qui font du bien, que l'on n'entend pas, et celui qui font du désordre et du bruit, du chaos, et qui sème le chaos sur Terre, que l'on entend, et que l'on montre du doigt pour faire souvent l'amalgame avec tout le reste de ces pareils, hein, de ces gens. Par exemple, quand on parle de la communauté musulmane et que certains énergumènes commettent des crimes, alors souvent on fait l'amalgame avec tous les musulmans et c'est particulièrement détestable, alors que la grande majorité écrasante aspire à vivre en paix, en amour et en fraternité avec le reste de la société dans laquelle elles vivent.
Alors, Imam Abdelali, quand commence l'histoire des arbres dans le Coran ?
Alors, effectivement, le Coran est bourré de mots, du mot arbre, puisque l'arbre, c'est la source de la vie, c'est plein de choses, mais en même temps, dans le Coran, Dieu l'utilise pour éprouver, pour aider, pour paraboler, pour guider les hommes à travers leur cheminement spirituel vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, d'abord, nous avons cette histoire où Dieu a éprouvé Adam, qui lui a interdit de manger de cet arbre. Il y en a qui disent c'est un pommier, on a la pomme d'Adam, à ce qui paraît, nous les hommes, on aurait été épargnés de consommer totalement. C'est une légende, c'est tout à fait faux, ça n'a rien de vrai, ni dans le Coran, ni même dans la Bible, que la pomme d'Adam serait restée bloquée au niveau de sa gorge, et qu'au contraire, la femme, elle l'aurait totalement assimilée, et donc elle aurait été imprégnée du péché originel, commis par Adam, par Ève, du moins au début de la création de l'humanité. Tout ça, c'est du faux, et usage de faux. Adam a bien mangé de l'arbre, alors on ne sait pas si c'est une pomme, mais en tout cas, il en a consommé, et bien comme il faut, il l'a mangé. Et au moment où est-ce qu'il l'a mangé, nous dit Allah Azza wa Jal, que c'est à ce moment-là qu'est apparue sa nudité. C'est bizarre, hein, puisque... Dans le Coran, il est dit que Adam et Ève vivaient au paradis totalement dénudés, mais qu'on ne voyait pas. Dieu avait créé un sorte de flou.
Il y avait un voile.
Il y avait un voile magique, surnaturel, qui cachait leur nudité. Parce que Adam a toujours été un être pudique, un être réservé. C'est ce qui nous distingue des animaux. C'est ce qui fait la particularité de l'homme, c'est qu'il se promène dehors habillé. Hein, il ne sort pas comme les animaux, dénudé, ou il n'a pas des relations.
Sauf au Cap d'Agde.
Bon, au Cap d'Agde, non, mais c'est le choix après de la modernité de certains qui ont voulu se laisser emporter par un libertinage ou une conception de la vie, que je respecte, c'est leur choix. Mais en tout cas, nous, en islam, on condamne ce manque de pudeur qu'il peut y avoir. Et dès le début du Coran, Allah Azza wa Jal nous dénonce justement qu'au moment de la désobéissance, Allah Azza wa Jal punit Adam et Ève en dévoilant leur nudité. وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Et qu'est-ce qu'ont fait Adam et Ève? Parce qu'ils avaient cet instinct de pudeur. وَطَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Ils ont commencé à prendre des feuilles des arbres du paradis pour se cacher leur partie intime avec. Donc eux-mêmes ont commencé à faire le nécessaire, ils ont commencé à faire l'effort, et donc la corvée. Donc c'était plus un paradis plein de délices où il n'y avait rien à faire, mais ils avaient commencé à affronter d'assumer leurs obligations et d'être confrontés à déjà à commencer à faire des efforts et déjà par eux-mêmes à se couvrir le corps. Et alors la raison, beaucoup se posent la question, mais pourquoi peut-être la huma sa'atuhuma? Pourquoi la nudité, leur nudité est soudainement apparue? Eh bien, certains disent que parce que tous les arbres fruitiers du paradis sont d'une pureté telle qu'ils sont assimilés intégralement par le corps. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas besoin de partie intime pour évacuer. Un homme et une femme ont des parties intimes qui ont d'abord pour mission d'évacuer les impuretés du corps. La nourriture du paradis est tellement pure qu'il n'y a rien de rejeté. Tout est assimilé par le corps. Et donc, au moment où est-ce qu'ils mangent de cet arbre impur, il faut bien évacuer cette impureté. Et là, donc, Allah Azza wa Jal fait apparaître cette nudité, ces orifices qui vont faire évacuer, parce que Dieu, dans sa grande miséricorde, ne souhaite pas qu'Adam et Ève restent impurs en consommant. Il lui donne le moyen d'évacuer cette impureté et de retrouver cette pureté. Et dès qu'Adam et Ève retrouvent leur pureté, ils demandent pardon à Dieu. Hein, et ils demandent pardon. Et Dieu dit dans le Coran qu'il leur a pardonné. Il leur a pardonné. Mais il dit, descendez sur terre. Et donc cet arbre-là est donc le début de l'histoire du lien entre l'homme et l'arbre. Ensuite, plus tard, nous avons... bon, il y a beaucoup de choses, hein, mais on va aller directement chez Moïse. Chez Moïse, où est-ce qu'il monte sur le mont Sinaï. Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre, dit Dieu. Et Dieu, au moment de l'arbre, qui est embrasé par le feu, c'est un feu ardent sur l'arbre du mont Sinaï, Dieu s'adresse à Moïse, en ayant l'apparence d'un arbre embrasé. Il dit, « Oh Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. « Inni ana rabbuka fakhla'an alayka, enlève tes sandales, innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa. » Tu es dans un endroit sacré. Hein, aujourd'hui, beaucoup de musulmans se réfèrent à ce verset-là pour quand ils rentrent dans une mosquée, ils enlèvent leurs chaussures parce qu'ils se présentent devant Dieu et ils suivent cette sunna, cette tradition de Moïse d'enlever ses chaussures, de se déchausser avant d'entrer dans un lieu sacré. Et c'est ce que Dieu demande à Moïse au moment où il se présente devant lui, devant un arbre embrasé. Bien plus tard encore, cet arbre-là va être utile pour... là, on est en 1300 avant Jésus-Christ, hein, pour Moïse. 1100 avant Jésus-Christ, c'est Jonas qui, après avoir été avalé par la baleine, puisqu'il est choisi, du moins, il est tiré au sort pour être jeté dans l'eau pour alléger la barque dans laquelle se trouvaient ses compagnons. Et donc, la baleine l'avale, il y reste 3 jours à l'intérieur, et donc son corps est totalement ramolli par les suites gastriques. Il est affaibli, voire même malade. Il dit donc Allah Azza wa Jal qu'après cela, il l'a expulsé de la baleine. Il y en a qui disent qu'il est même sorti par le trou dans lequel sort l'eau qui jaillit comme une fontaine du dos de la baleine, et qu'il est éjecté au bord de la mer, et il est tout ramolli. il est tout ramé, son corps est totalement, on va dire, bouffé par, la, par le, les sucs gastriques. Et Dieu, là, va faire pousser « وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ » Alors, est-ce qu'il s'agit de d'acacia ou de gouge? Il y en a qui disent que c'est un arbre de gouge. Un gouge, c'est...
C'est quoi un gouge?
Bah, c'est un fruit. Le gouge, c'est un fruit.
Nadia, vous connaissez
c'est un peu
le
comme
gouge.
Le potiron.
Non, mais c'est pas le gouge.
Ah bah, écoute, je connais le fruit de la passion.
Oui, bah, je suis sûr que c'est une femme passionnée et passionnée par son...
Alors le gouge, moi, je ne sais pas ce que c'est.
Bon. Voilà, en tout cas, c'est un fruit. Moi, je te montrerai une image tout à l'heure, ouais. Si tu veux bien. Bon. En tout cas, cet arbre va jaillir et il a la particularité de soigner la peau, cet arbre-là. Son fruit et sa sève est utilisé souvent pour soigner la peau et pour adoucir la peau. Et c'est ce que... ou il y en a qui disent qu'il est aussi pour chasser les bêtes. Les microbes, les bactéries, etc. Parce que comme le corps était, la peau était tellement fragilisée que Dieu a voulu protéger Jonas de toute agression venant des animaux, des bactéries, des petites ou des microbes. Voilà, ça c'est en l'an 1100. Et puis on va faire encore un saut en avant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Jusqu'à l'avènement du prophète, donc nous sommes environ au début du 7e siècle de l'Égypte. Ou est-ce que 2 ans avant la conquête de la Mecque, donc c'est-à-dire 8 ans après l'immigration, ou plutôt 6 ans, puisqu'on 2 ans avant l'immigration, le prophète va signer un pacte de paix. Et ce pacte de paix, il va être signé sous un arbre. Mm-hmm. Cet arbre-là, on l'appelle l'arbre du pacte. Bay'atou shajara, ou shajaratou al-bay'a. Hein, c'est là où est-ce qu'il va y avoir une allégeance où le prophète va demander à ses compagnons de renouveler leur allégeance et leur engagement à soutenir le prophète dans le fait d'informer et de répandre sa prophétie. Cet arbre, on ne sait pas quelle catégorie d'arbre il s'agit parce que le calife Omar, quelques années plus tard, va décider de le couper et de faire disparaître l'endroit précis où il se trouve pour empêcher le culte de l'objet ou de l'arbre, et pour qu'empêcher que des gens viennent vénérer plus tard l'arbre. Donc il va, pour éviter une toute forme d'idolâtrie, couper l'arbre à la racine, parce qu'il dira que sa mission est terminée au moment où est-ce que les compagnons ont signé cette allégeance. Et ce qui doit être, on va dire, adulé, vénéré, considéré, respecté, c'est le pacte de chaque musulman avec Allah Azzawajal et son prophète. Voilà, et... Donc il a enlevé le symbole et il a laissé l'esprit de ce pacte que doit chaque musulman à Allah Azza wa Jal. Et donc le Coran est pour beaucoup de effectivement tout imprégné de d'histoire.
Bien. Qui concerne les arbres. Alors, dans un instant, si vous voulez bien, Imam Abdelali, on va changer de sujet, puisque Nadia Azouaoui était avec nous. Oui. Elle nous a parlé de son film qui a été projeté en France il y a quelques jours. Ça s'appelle « L'islam de mon enfance ». Vous restez avec nous, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, Imam Abdelali, nous avons une invitée aujourd'hui qui arrive de Montréal, elle s'appelle Nadia Azouaoui. Bonjour et bienvenue, re-bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes cinéaste et documentariste et vous avez réalisé un film qui s'appelle L'islam de mon enfance. Vous avez eu un prix au Festival d'Agadir qui récompensait le Festival international du film amazigh d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Voilà,
oui.
Et vous avez été meilleur film. Vous dites que l'islam de votre enfance, qui était un islam de tolérance et de paix, a disparu et vous n'arrivez pas à le retrouver. Donc vous êtes parti sur ces traces en Algérie et vous avez essayé de comprendre et de répondre à cette question. Pourquoi cet islam de votre enfance n'existe plus? Vous êtes allé où pour le retrouver?
En fait, c'est quand j'ai eu l'idée de faire ce film. Bon, je l'ai fait pour la télévision nationale canadienne, Radio-Canada. Et je voulais faire un film sur l'intégrisme et puis l'impact de l'intégrisme sur les sociétés. J'ai pris l'exemple de l'Algérie parce que c'est le pays qui a vécu la pire expérience du terrorisme. Il y a eu quand même plus que 200 000 morts dans un pays où tout le monde se dit musulman. Donc, je voulais faire un film d'analyse. Et parce que
C'est pour ça que vous êtes partie de la décennie noire, en fait.
En fait, je suis partie à partir du Québec. Le film, j'ai filmé au Québec, j'ai filmé en France, j'ai filmé en Algérie. Malheureusement, la partie française, j'ai trouvé que le contexte est tellement explosif et tellement différent. Donc, je pars à partir du Québec, qui est un pays de diversité, où il y a des gens de partout qui arrivent à vivre avec leurs différences dans un pays, où cette diversité est très riche, mais en même temps, c'est la base d'une démocratie où tout le monde est différent, mais on se respecte tout en ayant des lois qui régissent notre vivre ensemble. Et donc, je retourne dans mon pays d'origine et en fait, par rapport à tout ce qui se dit dans les médias, par rapport à l'islam, qui est souvent, malheureusement, dans l'imaginaire en Occident et relié au terrorisme. Et je retourne dans mon pays d'origine pour expliquer c'est quoi cet islam dans lequel j'ai grandi, qui est un islam qui avait épousé nos cultures.
Voilà, un islam qui vénère les saints, par exemple. Vous prenez Sidi Abderrahman, le saint patron d'Alger, par exemple.
C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de saints, donc un islam soufi, très spirituel. Mais en même temps, quand j'étais jeune, par exemple, on n'avait pas on nous imposait pas des choses. C'est sûr qu'il y a la condition patriarcale, par exemple, pour les femmes, c'est dur, mais on nous imposait pas des choses. Et maintenant, ça a changé.
Mais par exemple, si on revient sur les saints, parce qu'il y a cet exemple. Vous rencontrez une dame qui va voir le saint, mais qui va pas le voir. En fait, c'est très paradoxal, finalement. Ouais. La situation qu'elle a et vis-à-vis du saint qu'elle va voir.
Oui. Bon, au fait, les saints, chaque région en Algérie a son saint, avec les gens croient à ce saint. Et puis, autour de ça, il y a toute une communauté d'entraide. Les gens vont, comme par exemple la Sidi Abderrahman, les femmes, elles vont, elles s'assoient, elles parlent. Puis, ça a un peu un côté, il n'y avait pas de psy, donc les gens...
Elle lui demande des choses, elle lui dit des choses.
Les gens font des chants coraniques. Et donc, avec la montée de l'intégrisme, même Sidi Abderrahman, ce mausolée, ils ont essayé de le détruire. Donc, ils ont essayé de détruire tout ce qui est culturel.
Notre-Dame d'Afrique, par exemple. Si on prend Notre-Dame d'Afrique, qui est la première chose qu'on voit au loin quand on arrive à Alger...
Oui. Et qui dérangeait justement les islamistes. Après, ils ont commencé à dire oui, c'est mieux de construire. Là, la grande mosquée qu'ils sont en train de construire à Alger, ils disent non, quand on arrive en Algérie par bateau, on veut voir la grande mosquée, pas Notre-Dame d'Afrique, parce que ça fait un affront à l'islam. Donc, il y a des. C'est ce côté. C'est vraiment les intégristes qui disaient ça, comme le racontait la journaliste dans le film.
Par contre, ça ne les dérange pas que de l'autre côté de la rive, côté européen, sur le mont Gibraltar, et construit une belle mosquée, une super belle mosquée qui a été construite par le roi Fahd, qui a coûté quand même 8 millions d'euros et qui surplombe la baie où il n'y a aucun bateau qui peut passer par le détroit sans ne pas voir cette belle mosquée avec un grand minaret au moment où le passage de tous les bateaux est côté européen. On parle du côté européen. Moi, je crois qu'au contraire, c'est une magnifique preuve de la diversité,
exactement,
de l'échange, de la tolérance. Que d'un côté musulman, on a une belle cathédrale qui montre que l'islam est une religion tolérante, et du côté européen, qu'on a une belle mosquée qui montre que l'Occident chrétien est aussi tolérant.
Alors, dans votre reportage, qu'est-ce que vous avez compris? Comment l'idée et l'idéologie wahhabite s'est-elle diffusée en Algérie?
Oui. Bah, au fait, au début, j'explique un peu cette diversité, même cette laïcité, parce que, par exemple, en Kabyle, dans les villages, les gens avaient une façon de jurer Jma' al-Imen au nom de toutes les croyances. Donc, il y avait déjà on acceptait la différence de l'autre et tout ça. Et donc, après, dans les années 80, 70, ça a commencé en 70, mais les islamistes ont eu le portefeuille un peu de l'éducation. Le code de la famille a changé en 1984, où ils ont appliqué un peu la charia dans le code de la famille. Tout ce qui a trait aux femmes est régi par la charia. La femme est devenue mineure à vie, l'homme a droit à 4 femmes, le témoignage d'un homme égale 2 femmes. Et c'est encore la même chose dans un pays où les femmes travaillent, les femmes sont éduquées. Après l'école aussi, je me souviens et avant,
on fait plus d'élèves, on fait des croyants aujourd'hui.
Exactement, comme disait le papa qui se battait pour l'école. Donc l'école qui est très importante, parce que il y a aucun écrivain algérien qui a étudié dans l'école algérienne. Il y a cette déculturation qui avait déjà commencé avec le colonialisme français. Puis après, il y a cette déculturation qui a été faite avec l'Arabie Saoudite, les frères musulmans. On a eu beaucoup de profs frères musulmans qui venaient d'Égypte. Après ça, dans les années 80, c'était les télés. Donc, on a maintenant des télés privées en Algérie, comme des télés comme Chorouk, Nahar et tout, et qui, dont le siège social est quelque part en Angleterre, et qui sont de véritables télés qui font du lavage de cerveau et qui font beaucoup de tort à la société.
D'accord, mais la déculturation dont vous parlez, c'est pas, est-ce que c'est dû à plus de religiosité ou ça n'a rien à voir ?
Quand on est dans une société déculturée, c'est beaucoup plus facile de propager l'intégrisme. Quand on se permet que dans des écoles d'un pays, il y ait pas, on n'étudie pas leurs écrivains, on n'étudie pas son histoire, qu'on impose par exemple la langue, on interdit la langue autochtone par exemple. Moi je suis d'origine kabyle, j'avais pas le droit de parler ma langue à l'école algérienne, mes parents étaient... Mon père qui parle pas l'arabe était un, je veux dire, c'est, on a détruit le tissu social algérien pour construire une identité sur mesure qui est arabo-musulmane. Et celui qui dit le contraire, comme disait la chanson de Ibn Badis, c'est l'ennemi de la nation. Donc le fait d'avoir pas tenu compte de
Sha'bul Jazairi Muslimun wa ila al-urubati yantasib
man qala hada an aslihi
ou qala mata faqad kadhab.
Voilà, c'est ça. Et donc tout ça a eu une construction qui n'est pas. Et ce qui est magnifique maintenant avec le Hirak algérien, c'est que en 10 mois de sortie, des millions de gens sortent, se parlent. Et ils ont commencé à comprendre parce que malheureusement le gouvernement algérien pendant très longtemps, dès que la Kabylie revendique les partis de démocrates revendiquent le changement, ils vont dire que c'est des Kabyles, ils veulent la séparation et tout. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, avec le Hirak, les gens ont compris que c'est pas les Kabyles le problème. Et puis, dans le film aussi, j'explique l'impact de la destinée noire, les témoignages. Parce que d'abord, en Algérie, il y a une loi sous Bouteflika qui a été votée pour interdire de parler de la destinée noire. Par exemple, Shérif Akhdar,
dans le film, civile, donc.
La concorde civile, c'est pour ça que j'ai dédié le film aux victimes du terrorisme. L'Algérie, c'est très complexe, mais en même temps, il y a une histoire très importante à raconter, et ça peut être une leçon pour d'autres sociétés. Je me souviens, j'avais présenté le film au Maroc. Quand il a été présenté dans le sud, c'était beaucoup plus ouvert, donc j'ai eu le premier prix et tout. Mais quand je l'ai présenté dans le nord, où c'était un peu plus conservateur, à Tétouan par exemple, dans la salle, il y avait des gens qui se revendiquaient des frères musulmans. C'était très intense, qui n'étaient pas contents qu'une femme fasse un film sur l'islam et tout. C'était des débats très intenses, mais en même temps... À la fin, parce que pour eux, c'est juste le gouvernement qui a tué. Pour eux, c'est pas les islamistes qui ont tué. Et j'étais arrivée au point où je leur ai dit, mais est-ce qu'il va falloir vivre la destinée noire pour que vous compreniez le danger de l'intégrisme? Et ça, malheureusement, et c'est pour ça que dans le film, Kamel Daoud a participé, et je lui avais posé cette question sur l'islamophobie en Occident. Parce que je disais que, est-ce que nous, on fait nos révolutions dans nos pays d'origine pour changer les choses, alors que dès qu'on dénonce l'intégrisme, en Occident, il y en a qui le voient comme de l'islamophobie. Et ça, c'est une question très importante, je crois. Parce que, oui, il y a l'islamophobie, c'est un vrai problème. J'ai fait un film il y a quelques années sur l'impact des lois antiterroristes aux États-Unis 10 ans après le 11 septembre, et c'est l'horreur. Tout ce que nous montre Trump aujourd'hui, c'était caché au temps de Bush et c'était l'horreur.
Mais c'est pas Trump, pour le coup, c'est pas Trump qui les a votés.
Et c'était au temps de Bush. Mais pour dire que l'islamophobie existe, cette discrimination contre les musulmans existe. Mais en même temps, ce qui est dangereux, c'est comment est-ce qu'elle est instrumentalisée par des islamistes pour dire que c'est des victimes aussi. Donc faire la part des choses.
Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que l'islam algérien de votre enfance, c'est plus, enfin aujourd'hui, c'est plus un islam algérien en Algérie.
Ben il y a quand même, il y a un islam algérien. Les gens, c'est pour ça que par exemple quand on parle de laïcité à la française, ça fait 4 jours que je suis ici, on dirait le grand problème de la France c'est le voile. J'ai rien compris. Mais je veux dire, c'est une très mauvaise publicité de la laïcité, parce que la laïcité, c'est beaucoup plus que ça. La laïcité nous permet de vivre dans la diversité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, c'est la division.
Vous commencez par ça, votre film, par la diversité du Canada et du Québec, notamment.
Exactement, même si au Québec aussi, on essaye d'avoir les mêmes problèmes que la France, mais je crois que c'est important de... On ne peut jamais plaquer la même laïcité dans chaque société, parce que chaque société a un cheminement qui fait qu'il va arriver vers une sécularisation différente. Et dans les pays musulmans, on ne peut pas parler directement de la laïcité comme à la française, où on arrive même à interdire les signes religieux ostentatoires, mais on peut expliquer que la laïcité, c'est la neutralité de l'État et qu'on interdise que les islamistes fassent de la politique, au fait.
Est-ce que l'Algérie est vaccinée contre la décennie noire ou pas encore ?
Moi, je crois que oui. Pendant le Hirak, au début, il y a des groupes salafistes qui sont sortis pour manifester. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient très, très hués.
Ils les ont jetés, tout simplement.
Voilà. Par contre, ce qui est un peu dangereux, qui est plus insidieux, c'est cet islam des frères musulmans qui est un peu plus, qui manipule les populations. En fait, j'ai fait ce film et mon but, c'est vraiment d'aller le montrer et de faire des débats, parce qu'au Québec, ça a fait de super beaux débats.
Mais en Algérie, le film, vous ne l'avez toujours pas montré.
Pas encore.
Ça parle de l'Algérie et vous ne l'avez pas montré.
Non, mais ce qui est magnifique, c'est que moi, je voulais faire une première en Algérie et le jour où devait sortir le film en Algérie, c'était le jour de la première grande marche en Algérie. Donc, c'était un peu prémonitoire. Je vais essayer d'aller en Algérie faire une tournée et initier des débats. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, les gens, ils savent que l'intégrisme n'a plus d'avenir et que c'est n'importe quoi et tout, mais ils n'ont pas les outils de la réflexion critique. Parce que pendant très longtemps, parler de la religion, c'est tabou. Et ce qui est important, c'est de faire la différence entre ce qui est islam et intégrisme, en fait.
J'appelle ça l'islamisme.
L'islamisme, exactement. En fait, les gens mélangent tout. Et c'est important parce que pendant très longtemps, on n'avait pas le droit de critiquer. Les gens ne peuvent pas
maintenant,
critiquer.
Maintenant, c'est un sujet de conversation.
C'est un sujet de conversation, mais malheureusement, la façon dont c'est fait, c'est soit on est contre, soit on est pour. Mais à l'intérieur, c'est sûr qu'il y a un travail qui est fait à l'intérieur de l'islam, mais qui est encore tabou. Et c'est important de faire ce travail de réforme.
Madame, je pense que, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de proposer quelque chose de beaucoup plus cohérent et compatible avec les textes, justement, à la population algérienne, que de leur donner les deux extrêmes, c'est-à-dire soit un islam qui vénère des saints, c'est-à-dire des morts, qui ne vous répondront jamais et qui vous ne donneront jamais satisfaction de vos prières à leur égard.
Ce n'est pas vénérer des morts, je suis
désolée. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup d'Algériens avec les Wahadat.
Non, je suis désolée, c'est vraiment pas ça.
Attendez, laissez-moi terminer.
Il y a toute une histoire derrière.
Oui, mais c'est quand même de la culture qu'on mêle à la culte. Au culte. Le culte ne parle pas de ça. Est-ce que vous avez un texte dans le Coran qui dit qu'il faut aller vénérer les morts ?
Écoutez, moi je crois qu'il faut respecter les gens dans leur culture.
Mais attendez, c'est autre chose.
C'est par exemple que j'aimerais ça que vous voyez le film.
C'est pas intolérance que je dis.
Non, c'est parce que le nouvel islam veut interdire tout ce qui est culturel. Si une culture basée, par exemple, la culture kabyle qui se base sur la nature, comme un peu les autochtones en Amérique du Nord, respecte la nature et que c'est une religion des mânes et qui disent que moi, quand je vais mourir, mon âme va aller à tel olivier parce que j'aime cet olivier, on ne peut pas aller dire non, l'islam, les textes. Je crois qu'il faut respecter les gens dans leur liberté d'interpréter l'islam comme ils veulent. Et est-ce que l'islam, regardez en Arabie Saoudite qui est le représentant importants des pays, de l'islam sunni, du jour au lendemain, ils disent, la femme peut même pas conduire, du jour au lendemain, la femme peut conduire. C'est quoi ça? Je veux dire, maintenant, il faut aller vers les libertés individuelles, que chacun interprète la religion comme il veut.
Ce n'est pas, tant que la religion, liberté, madame, la question n'est pas de savoir
tant que la religion reste au niveau personnel. On ne peut pas juger l'autre par rapport, parce que sinon on peut aller dénigrer l'Arabie Saoudite.
Alors, on parlait de débat, vous voyez, le débat est lancé. Nadia Zouaoui, j'aimerais simplement que vous disiez à ceux qui nous écoutent, déjà pour que le débat puisse s'initier, où ils peuvent voir votre film.
Alors le film, pour l'instant, il joue dans les festivals comme au Maroc.
D'accord, mais est-ce qu'on peut aller le voir sur votre site?
Vous pouvez aller le voir sur mon site, c'est www.nadiazouaoui.com. Vous pouvez le louer et le regarder.
Voilà.
Donc la version longue.
Et merci d'avoir été avec nous pour en parler ce matin.
Merci.
Voilà, on parlera d'un débat qui agite la société française tout à l'heure, Imam Abdelali. Oui. Mamoun, vous avez pu vous en rendre compte, Nadia, le voile, en France, on en parle tout le temps. On en parlera dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant.